Faramina. Il catalogo è questo delle belle che amò il patron mio, un catalogo lieto fatiglio. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Giorgia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già mille tre. Stanford questo contadino, camarino cittadino, Stancatessa baronessa, Marchesone principessa, e la donna, non gli è parla. In Italia, 640, in Lamagna, 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già mille tre. Fanno questa contadina, cavaliere, cittadina, quanto che se valore, se mal che se ne picchia, che se ne valore, donna, 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 donna,
Je rappelle donc les trois titres des trois premiers livres de Marcelin Plenet, chez qui nous dînons en direct ce soir. Provisoires amants des nègres, Paysages en deux et Comme. Puis ensuite, il y a eu en 1973, Stanze. Alors là, Stanze, Marcelin Plenet, c'est vraiment un gros livre. Et je remarque que ça fait quand même 8 ans qu'il a paru.
Oui, c'est un livre que j'ai mis 6 ans à écrire, et qui a été publié maintenant il y a 8 ans. C'est un livre qui se distingue de Comme par la charge d'emprunt et la charge citationnelle à l'intérieur des vers et à l'intérieur du livre. Et je peux vous lire, par exemple, si vous le souhaitez, une citation qui se trouve à l'intérieur de Stanze, du chant 3 de Stanze.
Oui, j'aimerais bien écouter un extrait, justement.
Que j'ai toujours haï les pensées du vulgaire, qu'il me semble profane, injuste et téméraire, mettant de faux milieux entre la chose et lui, et mesurant par soi ce qu'il voit en autrui. Le maître d'Épicure en fit l'apprentissage, son pays le crut fou. Petits esprits, mais quoi? Aucun n'est prophète chez soi. Ces gens étaient les fous, Démocrite le sage. L'erreur alla si loin qu'Abdère députa vers Hippocrate et l'invita, par lettre et par ambassade, à venir rétablir la raison du malade. Notre concitoyen, disait-il en pleurant, perd l'esprit, la lecture a gâté Démocrite. Nous l'estimerions plus s'il était ignorant. Aucun nombre, dit-il, les mondes ne limitent. Peut-être même ils sont remplis de Démocrites infinis. Non content de ce songe, il y joint les atomes, enfants d'un cerveau creux, invisible fantôme. Et mesurant les cieux sans bouger d'ici-bas, il connaît l'univers et ne se connaît pas. Un temps fut qu'il savait accorder des débats. Maintenant, il parle à lui-même. Venez, divin mortel, sa folie est extrême. Hippocrate n'eut pas trop de foi pour ces gens. Cependant, il partit. Et voyez, je vous prie, quelle rencontre dans la vie le sort cause. Hippocrate arriva dans le temps que celui qu'on disait n'avoir raison ni sens cherchait dans l'homme et dans la bête qu'elle siège à la raison, soit le cœur, soit la tête. Sous un épais ombrage, assis près d'un ruisseau, les labyrinthes d'un cerveau l'occupaient. Il avait à ses pieds maint volume, et ne vit presque pas son ami s'avancer, attaché selon sa coutume. Leur compliment fut court, ainsi qu'on peut penser. Le sage est ménager du temps et des paroles. Ayant donc mis à part les entretiens frivoles et beaucoup raisonné sur l'homme et sur l'esprit, ils tombèrent sur la morale. Il n'est pas besoin que j'étale tout ce que l'un et l'autre dit. Le récit précédent suffit pour montrer que le peuple est juge récusable En quel sens est donc véritable ce que j'ai lu dans certains lieux que sa voix est la voix de Dieu?
Alors, Stanze, c'est une épopée musicale, une épopée transhistorique.
Oui. C'est un livre qui est composé de 9 chants, dont 4 ont déjà été publiés.
Le cinquième est annoncé.
Le cinquième paraîtra, je pense, l'année prochaine. Le livre se terminera par un autre volume de 4 chants. En principe, Stanze est une sorte de parcours ou de voyage initiatique d'un homme contemporain à travers sa culture et à travers les siècles.
Il faut peut-être citer le sous-titre.
Oui, le sous-titre, c'est Incantation dite au bandeau d'or. Stanze repose en effet sur une légende qui est la légende du Siwuki qui veut qu'un moine de bonnes intentions mais bête parte à la recherche en Occident des livres sacrés.
Moi, j'aimerais bien dire 2 mots de Stanze parce que c'est un... Un très grand livre, je crois. Oui, bah, peut-être 5 même. 2 ou 3, comme ça. Vraiment, je crois, un très grand livre. Et puis, la citation là, que vous venez de faire, peut-être est un peu déroutante pour le lecteur. Et moi, je voudrais reprendre un peu ce que vous venez de dire.
Expliquez-nous tout ça.
Oui, ce voyage comme ça, initiatique. Bon, Stanze est composé, dans ce qui en est paru, de 4 chants. Et... Tout le chant, certains chants montrent effectivement ce trajet du sujet européen dans sa constitution historique, culturelle, transculturelle, comme vous dites, à savoir à travers l'Égypte, à travers la Grèce, à travers Rome. Et effectivement, là, il y a toute une culture qui s'annonce. Je crois que tout à l'heure, comme ça, avant l'émission, on demandait, quand à Marcelin Plénet, l'une d'entre nous demandait ce qu'il lisait pendant qu'il écrivait comme, et il ne citait rien, comme Homère, Shakespeare et d'autres encore, grands noms, comme vous voyez. Alors, je crois que le lecteur soucieux, comme ça, de culture, pourrait retrouver ça dans Stanze de façon, je crois, étonnante. Bon, mais moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est cette espèce de construction et de dissolution comme ça d'une identité à la fois subjective, totalement subjective et pourtant ni simplement psychologique ou ni simplement affective, et pourtant totalement ça dans le champ d'une langue et dans le champ d'une langue très différente selon les champs. Et pourtant, ça chante dans Stanze. Et justement, pour reprendre ce que vous avez dit, vous, tout à l'heure, sur le fait qu'il avait... Oui, qu'il avait placé les idées avant les mots. Moi, je crois effectivement qu'il s'agissait du rythme de cette phrase, avant tout. Et les idées et les mots, en même temps, ils disent quelque chose, et peut-être autre chose que ce que nous y entendons ou que ce que vous y avez entendu dans ce rythme-là qu'il crée. Oui. Car effectivement, je crois que... Bon, ça paraît... étonnamment, puissamment dans Stanze par rapport même aux autres livres, si vous me permettez de le dire. Peut-être, on reviendra tout à l'heure sur Ré, mais c'est encore autre chose, mais il y a là une langue. Et je crois qu'elle aboutit dans Stanze de cette sorte qu'on va la retrouver maintenant.
Oui, il y a une langue, mais il y a aussi au départ cette légende chinoise dont parlait Marcelin Plénet.
Oui.
Et il me semble qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la place de l'Orient dans votre travail.
Oui, non, ce que je remercie Anne-Marie, ce qu'elle vient de dire est extrêmement flatteur et vrai. mais je crois qu'il faut aussi ajouter que le livre n'est pas aussi sérieux que ça, que c'est aussi un livre qui est plein d'humour, qui est plein de blagues, qui est plein de jeux de mots extrêmement vulgaires ou triviales, ou voire même de baby talk, de langage enfantin, et que enfin cette légende chinoise, qui est la légende donc d'un moine qui va chercher ses livres et qui est accompagné d'un singe qui le protège. Eh bien, je l'ai un peu interprété sous la forme, en m'identifiant à ce singe, si vous voulez, je l'ai un peu interprété en m'identifiant à ce que j'appellerais un singe savant, n'est-ce pas? C'est ce qui crée aussi l'humour par rapport à la culture, c'est que c'est un livre qui a l'ambition de se promener à travers la culture, mais de s'y promener d'une façon légère, n'est-ce pas? n'est-ce pas, pas d'une façon lourde ou pédante, mais qui a l'intention de s'y promener et en se prenant, n'est-ce pas, en se prenant vraiment, en jouant le jeu du singe savant, n'est-ce pas, et en jouant le jeu de tous les ridicules du singe savant et de tous les ridicules de la culture, et en même temps en jouant le jeu de toutes les beautés de la culture, de tout ce que de cette culture peut avoir d'admirable. Par exemple, le poème que j'ai lu, n'est-ce pas, qui est une fable de La Fontaine sur Démocrite, est une fable absolument superbe. On ferait difficilement mieux. Donc, si vous voulez, il y a ce caractère-là, et sans doute, d'une certaine façon, c'est peut-être plus facile de sortir des limites de sa culture, parce que des limites de notre culture qui sont presque toujours 19e-istes, n'est-ce pas ? Nous vivons dans une culture dont l'horizon culturel est le 19e siècle. Oui. En France, notamment, eh bien, c'est peut-être plus facile d'en sortir en prenant un point de vue tout à fait étranger, c'est-à-dire l'Orient, c'est-à-dire la Chine.
Oui, alors peut-être une toute petite remarque, parce que quand j'ai dit une langue, je voulais dire sa langue, et pas la langue française en particulier. Et justement, ce qui déroutera, je crois, le lecteur, pour avoir pratiqué Stanz devant d'autres lecteurs, je peux le dire, c'est évidemment ces tons tout à fait différents dans les chants. Donc c'est à la fois ces paroles différentes ou ces langues différentes. Mais quand je voulais dire une langue ou sa langue, c'était justement... Bon, peut-être il faut employer le mot de Barthes et dire sa voix.
Mais je crois qu'effectivement, c'est intéressant de souligner qu'aucun des chants de Stanze n'est écrit de la même façon, voilà. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ça n'est pas comme, je sais pas, comme la légende des siècles de Victor Hugo, du premier vers au dernier, la machine se met en route et broie sa prosodie d'une certaine façon. Ça n'est pas ça du tout. Et aucun des chants n'est écrit de la même façon, oui. N'a la même forme, ne fonctionne sur la même prosodie ou sur la même rythme.
Justement, vous pourriez préciser un peu comment c'est composé ces chants?
Si vous voulez, ces chants se composent, disons, des origines de notre culture à nos jours, d'une certaine façon. Mais ce qui me semble intéressant à constater, c'est que c'est les rapports qu'un homme contemporain peut entretenir aujourd'hui à la culture grecque, à la culture latine, à la culture égyptienne, à la culture chinoise. Si vous voulez, nous sommes aujourd'hui à des carrefours culturels d'information, qui fait que, me semble-t-il, un homme ne peut plus parler une langue. Il est forcé de parler un certain nombre de langues, une certaine quantité de langues. Il ne peut plus s'exprimer continuellement sous la même forme rhétorique. Il est forcé d'employer des multiplicités de formes. Il ne peut plus même se contenter d'être simplement un écrivain enfermé dans la littérature. Il est forcé de s'ouvrir à d'autres formes de culture, à d'autres formes d'art, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire la peinture, c'est-à-dire la danse, à d'autres formes d'expression sociale, c'est-à-dire la science, la psychanalyse, les mathématiques, si les mathématiques sont une science. Il doit donc emprunter un nombre considérable de langages, et je pense que Stanze a l'ambition de représenter, de mettre en scène la multiplicité de ces langages.
Alors, juste comme ça, pour illustrer pour le lecteur.
Comme ça, mais dans le micro.
Comme ça, voilà. Mais dans le micro. Pour illustrer pour le lecteur, par exemple, on pourrait dire que le chant 1, d'une certaine façon, porte une voix, alors que dans le chant 4, il y a comme ça une multiplicité de voix qui parlent, y compris de voix qui parfois nous mettent en cause parce que... Bon, très, très critiquant, et la culture, et les objets qu'on aime, et les fétiches, etc.
Moi, j'aimerais bien, pour terminer sur Stanze, poser une dernière question à Marcelin Plenet. Depuis la publication des premières pages, c'est-à-dire c'est en 1970, dans la revue Telle Quelle, est-ce que le projet s'est modifié? Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Est-ce que ces difficultés, par exemple, viennent de la Chine, justement?
Non, pas du tout, parce que la Chine a produit un schéma général qui n'a strictement rien à faire avec la Chine contemporaine, n'est-ce pas, puisque c'est une Chine tout à fait archaïque qui produit ce schéma et cette légende. Le schéma général, c'est le schéma du calendrier chinois qui est vieux comme la Chine même. Donc ça n'a aucun rapport avec la Chine. C'est tout simplement un schéma d'adéquation d'une écriture avec le sens que cette écriture doit doit porter, ce à quoi j'attache la plus grande importance aujourd'hui. La poésie, selon moi, doit porter un sens qui doit être aussi explicite que possible, et encore plus explicite que cela même, si c'est réalisable. Donc, si vous voulez, la grosse difficulté que j'ai, c'est une difficulté de clarté dans la langue poétique sur ce chant 5 qui est en train de se terminer.
En attendant, vous nous lisez un autre extrait de l'un des 4 premiers chants ?
Très volontiers, c'est un extrait du dernier chant et qui est très lié au premier, extrait, puisque ça n'est plus d'Épicure qu'il est question, mais de Démocrite. Et il est intertitré « L'ami de tout au monde ».« Démocrito che il mondo a caso pone aux enfers et à la joie riante et à l'ignorance des livres d'où montent ses abeilles d'or. Éclair ou tonnerre, Lucrèce, ami de tout au monde, le dit. Ainsi par l'univers s'envolent les pensées de la nature. Quant à moi, en lisant, je suis sans maître et sans pensée. Et je laisse vers moi l'année perdue dans la matière. » Et ces sages roseaux, ceux qui disent la science, et les éclats de leur vie cachés selon le rythme des héros, lorsque je les rencontre dans l'histoire comme Dante aux enfers, toujours luttant contre l'obscurité et toujours sans repos. Sans limite, là, ne sachant plus ce que je peux trouver avec joie, et pourtant comme tant d'autres porteurs d'étincelles dans le vide. Après des siècles, ce qui n'est plus continue de chanter dans la saveur brûlante du plaisir et de la poésie, où il porta l'arguerre, docti, furor, Ardous, Lucrétie, le premier, plus proche dans la grande douleur vidée de l'univers et de l'océan qui l'emporte, histoire, opéra de la science logique à la porte de notre histoire, ici comme à la porte des enfers.